Une organisation, qu'elle soit privée ou publique, ne peut se réformer de l'intérieur. La seule façon à ce qu'elle change, c'est qu'elle se concurrence de l'intérieur. Et en fait, qu'elle se dévore de l'intérieur par une organisation concurrente.
Robin Rivaton, vous êtes entrepreneur et essayiste. Vous faites partie du comité éditorial de Civilisation. Vous êtes venu nous parler aujourd'hui de l'article que vous publiez dans notre premier numéro. Pourquoi il ne faut pas réformer l'État, mais le concurrencer de l'intérieur. Alors, il s'agit d'une proposition assez originale et même un brin provocatrice. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là et aussi peut-être comment l'idée vous est venue?
Bonjour, et je suis ravi de rejoindre le comité éditorial de Civilisation. C'était un choix évident. Cette idée d'article m'est venue parce que bon, les débats sur 2027 arrivent et le sujet clé ou sujet phare de cette élection présidentielle sera évidemment la capacité à exécuter. Beaucoup de gens vont arriver avec leur lot de promesses, d'intentions, et la capacité à exécuter va rester relativement difficile. Elle est difficile tout simplement parce que les administrations publiques sont des animaux, des sociologies extrêmement rigides, extrêmement difficiles à faire bouger, à mettre en action, à transformer, et avec souvent des contraintes temporelles assez évidentes. On pense à l'éducation nationale. Bah, l'éducation nationale, chaque 1er ou 2 ou 3 septembre, redémarre, et donc vous n'avez pas trop d'autre choix que de faire en sorte qu'il n'y ait pas des grands blocages pour que les parents puissent mettre leurs enfants à l'école et que le pays puisse à peu près tourner. Et donc, la capacité à transformer réellement de l'intérieur, à réformer, puisque ce mot a longtemps été à la mode, est relativement mineure. Et donc, la proposition que je fais tire son idée d'un quelque chose qui a été observé dans le secteur privé, parce que la rigidité des organisations n'est pas propre à l'État, n'est pas propre aux administrations publiques. On la retrouve également dans le secteur privé. Et un penseur de l'économie, Christian Said, a mis en évidence ce qu'il appelle le paradoxe de Christensen, qui est de dire qu'en fait, une organisation, qu'elle soit privée ou publique, ne peut se réformer de l'intérieur. La seule façon à ce qu'elle change, qu'elle fasse face à un paradigme brutal, c'est qu'elle se concurrence de l'intérieur. Et en fait, qu'elle se dévore de l'intérieur par une organisation concurrente. Et c'est un peu la proposition de cet article.
Vous faites allusion à Clayton Christensen, qui était professeur à Harvard et qui a développé cette théorie dans The Innovator's Dilemma. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Christensen parle d'innovateur. Est-ce à comprendre que, selon vous, l'État, quand il se réforme, innove forcément? Ou bien est-ce que la réforme et l'innovation sont deux choses différentes?
L'innovation, c'est simplement la manière de changer des procédés, puisque l'administration étant beaucoup des services avec des humains, il y a un petit peu de technologie, mais ça reste essentiellement des services avec des humains. On va modifier les procédés. Les procédés, ça peut être la façon de faire la discipline dans une classe, ça peut être la façon de rémunérer et de donner des primes à des enseignants, si je reste dans le corps d'éducation nationale, ça peut être la façon de mesurer la performance d'un établissement à l'autre, d'une classe à l'autre, entre les élèves, ça peut être le choix des programmes, enfin bref, les procédés sont multiples. Donc innover, ça va être modifier les procédés. Donc en réalité, l'administration publique qui est l'éducation nationale innove en permanence, elle modifie sa façon de faire. Innover peut très bien vouloir dire revenir à des procédés anciens. Je voyais la question poindre, et donc peut vouloir dire revenir à des procédés anciens parce que des choix qui ont été faits ont été des erreurs, ou parce qu'ils ne sont plus adaptés à l'environnement dans lequel on les fait agir. Et donc ça ne veut pas dire forcément il faut se renouveler, il faut faire de l'innovation pédagogique. Le problème du mot d'innovation, c'est qu'il a été un peu galvaudé, il a été absorbé, réutilisé par beaucoup de gens qui avaient une idéologie derrière. Dans le propos que je développe, dans ce que disait Christensen sur le dilemme de l'innovateur, on était dans quelque chose qui était beaucoup plus neutre et qui était la modification de procédés ou de services ou de technologies existantes.
Alors, comment peut-on savoir qu'une administration, une organisation doit être réformée et, si je comprends bien, non pas forcément réformée, mais changée, modifiée selon le modèle que vous proposez?
Ouais, je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus claire, c'est la satisfaction qu'ont les citoyens français, mais on peut élargir ce problème à d'autres pays du monde occidental, vis-à-vis de la qualité des services publics auxquels ils font face. Et quand on interroge les citoyens et les Français sur « Êtes-vous satisfait des services publics ?», la réponse est majoritairement négative. Non pas parce qu'ils dénigrent le travail de la personne qui est derrière, qui opère ce service public, mais plus parce que le résultat qu'ils en retirent aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils consentent en termes de financement de ces services publics, que ce soit via l'impôt, que ce soit via les cotisations cachées, mais dans l'ensemble, cet effort-là ne semble pas. Il y a un problème pour eux d'efficience. L'efficience est un rapport entre ce que j'investis et ce que j'en retire. Et c'est très vrai dans le service public de l'éducation nationale, mais on peut le retrouver, on pourrait décrire la même situation dans le service public de la justice, dans le service public de la sécurité, même dans certains services de la propreté dans certaines villes.
Alors, comment peut-on savoir si un service public doit être simplement réformé, c'est-à-dire qu'il faut l'améliorer à la marge, ou bien qu'il faut justement le concurrencer de l'intérieur, comme vous le proposez? Quel est le critère, selon vous, d'action dans ce domaine?
C'est une très bonne question. Je pense que un bon juge de paix dépend aussi de la taille de l'organisation. Plus une organisation est grande, plus elle a tendance à se calcifier, à se rigidifier. Ça peut être aussi l'occasion de regarder les tentatives de transformation précédentes et de mesurer leur réussite ou leur échec. Et c'est vrai que, je pense que la phrase de Claude Allègre sur le dégraissage du mammouth doit aujourd'hui avoir bien 22, 23, 25 ans. Donc, on voit bien la difficulté à mener. Et puis, encore une fois, avec cette contrainte calendaire qui fait qu'il y a des services dont vous pouvez stopper la production pendant un temps pour les changer, les modifier, et à partir de là, avoir une nouvelle production. Dans le cadre de l'éducation nationale, le temps, le rythme et la fonction importante de l'école, qui est malheureusement, qui n'est pas seulement la transmission des savoirs, mais en tout cas qui est d'un point de vue pratique, et de permettre à ce que des parents aillent au travail le matin de manière très, très, très simple, fait que ça crée une capacité à s'opposer, à résister au changement, qui mérite d'imaginer quelque chose. Et peut-être aussi l'importance des résultats, de la vitesse des résultats. Il y a peut-être des transformations où vous vous dites, si les résultats arrivent dans 5 ou 10 ou 15 ans, pourquoi pas? Je vais prendre des exemples en urbanisme ou en matière de développement immobilier, des sujets que je connais assez bien. Que vous ayez des résultats dans 5, 10 ou 15 ans, c'est acceptable. Sur ce sujet-là, vous avez besoin de montrer, de donner une preuve à avoir beaucoup plus rapide. Et donc, dans ces cas-là, la transformation par la concurrence de l'intérieur est une solution qui permet d'illustrer aussi une sorte de test A et B, et de dire, regardez la situation à laquelle on est arrivé. Donc, plus l'organisation est grande, plus ces tests peuvent être précieux parce qu'ils illustreraient des fonctionnements différents.
Comment vous expliquez que cette méthode n'ait jamais été utilisée en France, en tout cas pas à ma connaissance?
On a un problème, c'est pas un problème, on a une sacralisation de l'égalité de la loi. Et ça, c'est quelque chose qui est très profond. Et donc, vous allez avoir des tentatives de réflexion qui vont avoir des objets un peu similaires autour des régimes d'exception ou des zones d'exception qui rejoignent un peu la même façon. C'est-à-dire que on n'est jamais que dans un régime d'exception appliqué à un bout du service public. On pourrait imaginer des zones d'exception géographiques. Ça a été utilisé en Chine avec les zones économiques spéciales. On peut utiliser des dérogations à la norme. C'est les fameuses lois Notre-Dame ou loi JO. Et donc, quelque part, ces remises en question de l'égalité de la norme, de l'égalité de la loi, sont toujours vécues comme une remise en cause de la trinité, de la devise fondamentale du pays. Donc, je pense qu'elle choque profondément à la fois l'État, dans son caractère très jacobin et centralisateur, qui pense que la bonne loi est la loi qui permet d'unifier l'intégralité des Français, et y compris les Français qui se disent « mais ne vais-je pas être le perdant de cette création d'inégalité ?» Ceci étant dit, je pense qu'aujourd'hui, on a une opinion publique et des Français qui sont prêts à entendre ce discours-là. On l'a vu avec un certain nombre de dispositifs d'élargissement des tentatives d'expérimentation au global. Et je rappellerai juste, alors c'est un clin d'œil qui malheureusement m'attriste, mais que mars 2022, dans la campagne présidentielle précédente, le président de la République en exercice s'était rendu à Marseille pour un projet qui s'appelait Marseille en grand, dans lequel il avait promis l'autonomie aux chefs d'établissement des écoles marseillaises, un certain nombre d'entre elles, afin de voir ce que prendrait cette expérimentation. Et pourquoi il l'avait-il proposé dans cette ville et pourquoi ça n'avait pas à l'époque suscité de débat? C'est parce qu'on comprenait bien que cette liberté devait permettre d'améliorer un service public de l'éducation dans cette zone-là qui n'était pas à la hauteur de ce que les citoyens ont pu en attendre.
Vous venez de mentionner l'éducation, vous l'avez fait plusieurs fois auparavant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement à quoi peut ressembler la préconisation que vous faites dans le secteur éducatif? Peut-être aussi, y a-t-il des exemples étrangers que vous aimeriez citer?
Bien sûr. Pourquoi l'éducation? C'est parce qu'encore une fois, le corps social derrière et les processus, notamment de carrière, de gestion des carrières, sont intrinsèquement liés et pilotés par les organisations syndicales qui sont très hostiles à des changements qui reviendraient à amoindrir leur pouvoir et donc en partie à la centralisation que cela implique. Et donc, tous les efforts que vous mettez à transformer ces procédés établis, à faire venir des gens qui vont penser comme vous, mais qui vont se retrouver avalés par le magma des gens qui pensent contre eux, de tous les micro-sabotages qui vont arriver au quotidien dans cet exercice, c'est toute cette énergie que vous mettez vers l'interne que vous ne mettez pas vers l'externe. Et donc, plutôt que d'être dans une philosophie comme ça qui vous consomme beaucoup d'énergie que vous devriez mettre plutôt vers l'externe, vous vous dites, c'est pas grave, l'interne, je le laisse tel qu'il est et je vais choisir soit à ma main, soit dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt assez rapidement, ou le faire de manière aléatoire, un certain nombre d'établissements, 5%, 10%, en tout cas un nombre qui est suffisant pour ne pas refléter des situations strictement individuelles ou locales, et dans lesquelles je vais tester un certain nombre de mesures. Cette expérimentation, notamment la principale d'entre elles, qui est un sujet qui je ne défends pas particulièrement moi-même, c'est un sujet qui traverse la vie politique française depuis maintenant près d'une vingtaine d'années, qui est de dire c'est aux gens les plus proches du terrain, notamment aux chefs d'établissement, qu'il faut donner plus de latitude pour assurer la sainte trinité de toute organisation. Toute organisation, c'est nommer des gens en responsabilité, les sanctionner et les récompenser. Cette trinité de vase qui fait que ça fonctionne dans une organisation comme une association loi 1901, voisinage jusqu'à l'éducation nationale, elle n'est pas appliquée aujourd'hui. L'idée de l'appliquer en donnant ce pouvoir au chef d'établissement est une idée ancienne. Le faire en disant je choisis un certain nombre de ces établissements pour la rentrée 2027 et puis en juin 2028 dans les évaluations je mesurerai l'écart de performance, l'écart de transmission du savoir que je peux avoir entre les différents établissements est une solution qui marche. Un caveat et un point important, cette méthode-là n'est pas immune à l'échec. Sur les 5 ou les 10% d'école à qui vous donneriez ce pouvoir et cette subsidiarité avec du pouvoir qui est confié chez l'établissement, vous aurez nécessairement des échecs. Ça ne veut pas dire que, en moyenne, j'espère, parce que, encore une fois, je pense que quand on donne le pouvoir aux gens les plus proches du terrain, la judiciarité a souvent des effets positifs. Il n'empêche qu'il y aura souvent des échecs. Et donc, il faut accepter aussi cette part d'échec.
Bien sûr. Alors, si je vous comprends bien, vous ne défendez pas forcément l'autonomie des établissements en tant que tels. On pourrait très bien imaginer d'avoir une administration parallèle de l'éducation nationale qui sélectionne, voilà, vous l'avez dit, 5 à 10% des établissements et impose le port de l'uniforme aux élèves, par exemple, et non pas l'autonomie. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous imaginez également?
Totalement. Je pense que cette méthodologie est une méthodologie d'expérimentation. Et donc, à ce titre, il y a des expérimentations qui pourraient être menées autres que celles de l'autonomie du chef d'établissement. Après, à titre personnel, je pense vraiment qu'aujourd'hui, un des problèmes principaux du système, au-delà de la rémunération dont tout le monde parle, je pense qu'encore une fois, c'est vraiment la capacité à mettre des gens en responsabilité, les sanctionner et les récompenser qui ferait une très, très grande différence puisqu'aujourd'hui, ce triangle de responsabilité est absent. En tout cas, beaucoup d'enseignants et ça crée des effets très pernicieux. C'est-à-dire que quand vous êtes quelqu'un qui est motivé, que vous voyez que les gens qui ne le sont pas qui agissent même de manière contraire à l'intérêt des élèves ne sont pas sanctionnés, évidemment, ça vous démotive profondément. Donc, cette capacité je ne suis pas un fétichiste de l'autonomie, mais je pense que ce devrait être une des mesures importante, si ce n'est essentiel, de cette expérimentation ou ce test-là. Et puis encore une fois, l'avantage de tester ça, c'est qu'au pire des cas, le retour en arrière est toujours possible. On n'est pas dans quelque chose qui serait impossible. La seule question, c'est la vitesse d'exécution. On revient à l'introduction que je faisais. On a des élus, des impétrants à la fonction politique qui sont discrédités parce qu'ils ont dit qu'ils feraient des choses et que depuis très longtemps, il y a un écart très important entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait. Et donc aujourd'hui, la légitimité du pouvoir est faible. Et la légitimité du pouvoir a besoin de se reconstruire par des victoires rapides. Et ces victoires rapides, ça peut pas être de dire, je vais faire le grand plan de transformation, de modification des programmes. Comme ça, dans 10 ans, on verra, ça ne peut pas marcher. Ce que l'on a besoin, c'est de voir à 9 mois, à la fin 10 mois, à la fin de l'année scolaire, quelles sont les évolutions qui ont été faites. Donc, encore une fois, je partage ce que vous venez de dire. On peut imaginer d'autres types d'expérimentations. En fait, je pense juste que le port uniforme aura des effets moins puissants que la solidisation du chef de crise.
Est-ce que vous auriez des exemples étrangers à nous citer, dans ce domaine ou dans un autre?
Alors, pas des exemples où on a été aussi radical, et c'est le jeu de la proposition et de l'article d'avoir un brin de provocation, mais beaucoup de pays qui ont fait des transformations assez importantes de l'éducation ces dernières années, ont inscrit cette logique de dire il y a des gens motivés, sérieux et les meilleurs à qui on va récompenser, mais de l'autre côté on va se séparer des gens qui aujourd'hui ne donnent pas satisfaction. Et cette évaluation entre les bons enseignants et des enseignants qui, je ne vais pas dire mauvais, mais en tout cas qui n'ont pas un impact positif sur les élèves qui sont en face d'eux, elle est plus facilement menée par quelqu'un qui les voit tous les jours tout au long de l'année plutôt qu'un évaluateur qui va venir pendant quelques heures dans une classe. Alors, ça empêche. Évidemment, les dérives vont apparaître évidentes. Ça peut porter le poids du népotisme, ça peut créer des chefferies, ça peut faire beaucoup de choses. Mais encore une fois, la question, une mesure ne peut pas être parfaite et on n'arrivera pas à être parfait. Il y aura forcément des établissements où ça ne marcherait pas. Mais dans la moyenne, en majorité, on peut espérer que ce soit positif. Mmh.
Ça a été fait notamment au Royaume-Uni à partir de 2010, lorsque le gouvernement de David Cameron a lancé toute une réforme scolaire et a notamment poursuivi ce que Tony Blair avait commencé précédemment, qui est l'introduction et le développement de ce qu'on appelle les académies. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
C'est une logique, effectivement, qui est de dire... Et je citerai aussi dans l'enseignement supérieur où ça a été beaucoup pratiqué. Mais la logique britannique qui a fait face à un système, pour une ligne, nous ressemble énormément. Les gens ont du mal à comprendre ou à l'accepter, mais on est très, très similaires, des états très centralisés avec des services publics extrêmement forts. Et donc, le remise est face à une dégradation très forte de son service public de l'éducation, une concurrence très forte du secteur privé, par le haut et par le bas avec des écoles religieuses. Et donc, il a été décidé, effectivement, il y a assez longtemps, à cette politique qui a été initiée sous le Labour et puis qui a été poursuivie par les conservateurs, qui a été de créer des académies et donc des établissements où une plus grande marge de manœuvre était laissée, qui sont des établissements publics. Non, c'est important. On est dans une logique de privatisation. Le détenteur, l'opérateur du service public reste l'État et avec du financement public. On peut y ajouter une dimension privée, mais c'est autre chose. C'est un autre sujet de réforme. Et d'un coup réuni, les académies ont, en tout cas en moyenne, encore une fois, il y a des quartiers réels, les endroits où ça n'a pas marché, les endroits où ça a phénoménalement bien marché, ont produit des meilleurs résultats que les établissements qui sont restés dans le système classique, sans les dérogations, les souplesses qu'offrait un système académiste. Dans l'enseignement supérieur, c'est des choses qui ont été beaucoup testées, avec une beaucoup plus grande autonomie à laisser aux universités, en Allemagne, en Chine, des grandes réformes de l'enseignement supérieur qui ont abouti à la création de très bonnes universités capables de rentrer dans la concurrence internationale, sont des réformes où, tout d'un coup, on a arrêté la gestion des carrières au niveau national, on a donné plus de poids aux directeurs d'université ou aux présidents d'université, et avec des résultats assez spectaculaires. Et ce que n'a pas été, en tout cas, n'a pas été jusqu'au bout, la réforme des universités de 2005.
Alors, quand une telle réforme, enfin, je n'ose pas employer le mot réforme, un tel changement est introduit, faut-il ensuite, si il porte ses fruits, généraliser l'expérimentation, ou bien se contenter voilà, d'avoir 5, 10, 20% d'une administration un petit peu différente du canal historique.
La condition numéro une de succès, c'est que l'échantillon test soit suffisamment large. Le piège est dans le dilemme de l'inventeur de Christensen, il cite beaucoup Kodak. Kodak, le leader mondial de l'argentique qui a fait face au numérique, Kodak avait créé une série d'innovations à l'intérieur qui avait vu le numérique, qui avait développé. Ce qui leur a fait peur, c'est le passage à l'échelle. Donc, c'est cette phase, déjà, d'un test qui soit suffisamment important pour pas que ce soit la sélection de 50 écoles à l'échelle. Les internats d'excellence ou sélectionner un établissement par département, c'est sympa, mais ça n'a aucun impact. Donc, il faut que l'échantillon de base soit suffisamment important. Ça, c'est une condition sine qua non. Et la seconde condition, c'est effectivement être prêt à se dire, si en juin 2028 ou en juillet 2028, les évaluations montrent qu'il y a un écart de performance substantiel entre les établissements qui ont été dans le régime classique et les établissements à qui on a accordé une plus grande autonomie, une plus grande de liberté, quelles sont les conditions pour passer à l'échelle et continuer. L'objectif, c'est de, si encore une fois ce système est bon, c'est de dévorer de l'intérieur l'ancien système. C'est pas d'organiser la cohabitation entre les deux. Et je pense que c'est très important.
Donc, c'est 100% à la fois.
L'objectif, c'est 100%. Ce qui ne veut pas dire que ce système-là doit lui, à un moment, ce système-là, lui-même se calcifier, se réunifier. Mmh. Et il faudrait être en capacité de le faire évoluer parce que il n'y a pas d'homéostasie du système, c'est-à-dire que le système n'arrive pas à un niveau d'équilibre qui fait qu'il doit perdurer. Il est adapté à des conditions, à un environnement particulier. Aujourd'hui, je pense qu'encore une fois, dans l'environnement dans lequel on vit et face à la rigidité du système actuel, c'est une solution. Ça ne veut pas dire qu'elle le sera en 5 ou 10 ans. Donc, il ne faut pas non plus être ayatollesque sur le fait que ça durerait pour toujours. Par contre, il est important de se dire que si c'est un succès, il n'est absolument pas possible de s'arrêter au milieu du guet. C'est souvent un des pièges du design de l'inventeur de se dire, en fait, oui, j'ai lu les choses, oui, j'ai montré que c'est mieux, mais je n'ai pas prévu la phase de déploiement ou de montée à l'échelle. Or, c'est celle-ci qui est cruciale.
D'accord. Alors, est-ce que selon vous, c'est finalement la seule méthode valable pour, alors non pas réformer, mais pour revigorer des administrations qui sont en train de mourir, ou est-ce que il faut aussi pouvoir envisager de la privatisation. Alors là, je ne parle pas que de l'éducation, hein. Je parle plus généralement de l'État.
Je pense qu'aujourd'hui, on a des États, parce qu'encore une fois, c'est pas un diagnostic qui ne vaut que pour la France, on a des États qui se sont relativement autonomisés de leur mission. Et j'avais fait un papier il y a quelques mois de cela qui s'appelait « Contre la bureaucratie, la compétence du peuple ».
Vous savez, pour la Fondapol.
La Fondapol, tout à fait. Et qui est de dire qu'on a, à certains égards, besoin d'un peu de bon populisme au sein d'un certain nombre de fonctions de l'État. Le bon populisme, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'il y a un alignement d'intérêts entre les objectifs poursuivis par l'État en tant que tel et les individus à l'intérieur et les souhaits de la population, les souhaits des citoyens. Et donc, je ne sais pas si c'est la méthode pour revigorer, mais ce que je sais, c'est que le raccourcissement de la durée de vie des hommes ou des durées de vie carrière, la durée de carrière des hommes ou des femmes politiques les met à la merci des administrations qui, elles, vont rester, vont durer, vont perdurer. Et donc, il y a une capacité à organiser la résistance interne qui n'a jamais été aussi forte. Et donc, le fait que cette capacité à résister en interne soit aussi forte plaide pour des changements radicaux pour avoir des résultats rapides. Dans le cas contraire, c'est un peu ce qu'on vit, c'est beaucoup d'incantations. Et puis, comme je le disais, l'énergie, parce qu'elle existe, l'énergie de certaines personnes, l'élan réformateur se dilue dans le cabinet qui, au final, ne fait pas, l'administration qui ne traduit pas la circulaire, l'arrêté qui, en fait, se révèle être totalement contraire à l'esprit initial ou à ce qu'a convié le cabinet. Et donc, la seule façon de ne pas diluer, dilapider son énergie, encore une fois, énergie qui est courte, un capital politique qui est relativement réduit, c'est de ne pas l'utiliser vers l'interne, mais de l'utiliser vers l'externe.
Comment cette idée vous est-elle venue? Est-ce que ça vient de votre connaissance du secteur privé, de votre lecture de M. Christensen, d'une expérience que vous avez vécue?
Alors, sur le côté résistance de l'État, c'est l'expérience que j'ai vécue. J'ai été missionné l'année dernière par le ministre du Logement, l'année du Logement, pour évaluer la réglementation environnementale 2020, qui est la norme de la construction, et j'ai pu mesurer la capacité de l'État, encore une fois, sans cibler un individu en particulier, mais à prendre des décisions qui sont déconnectées de ce que sont les souhaits de la population et donc des politiques qu'elle porte au pouvoir. Et après, oui, je pense que c'est ma connaissance du secteur privé, parce que on voit bien, et je pourrais vous donner Air France, c'est un cas très connu. La transformation d'Air France, ça a été un serpent de mer de je ne sais pas combien de dirigeants d'Air France, sans aucun succès, jusqu'à ce que il y ait la création, on a pris un petit avion, jusqu'à ce qu'il y ait la création de Transavia, qui en fait a mangé les lignes européennes d'Air France de l'intérieur, permettant de retrouver de la compétitivité sur ces lignes européennes et donc permettant d'assurer la survie d'Air France sur le moyen courrier, de réserver Air France, la compagnie et les personnels avec les statuts et les procédés qu'ils avaient sur le long courrier.
Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui pourraient vous dire mais l'État n'est pas une entreprise, on ne gère pas l'État comme une entreprise, les missions de l'État sont particulières, et puis les personnes qui travaillent dans les administrations ne peuvent pas être traitées finalement comme on traiterait des cadres et des employés.
C'est absolument faux. Toutes les organisations fonctionnent sur le même principe, le même triangle que j'évoquais préalablement. Les gens ont besoin d'être en responsabilité, donc d'avoir des missions claires, et en fonction de l'atteinte ou non de cette mission, d'être récompensé ou d'être sanctionné. Ça peut paraître le béaba, mais ça fonctionne dans toute organisation. Vous pouvez prendre une organisation même non lucrative. Je parlais d'une association tout à l'heure. Une association, donc les gens ne vont pas recevoir des rétributions matérielles, donc la récompense ne sera pas matérielle. Mais si vous laissez quelqu'un qui dit « je vais faire » et qui ne fait rien, il ne va pas rester dans l'association. Il va y avoir une forme de sanction avec des gens qui vont dire « mais en fait, tu ne mérites pas d'être là ». Donc ce béaba, peut-être ce retour au basique de toute organisation humaine, ça dépasse ou transcende la question des motivations, qu'elles soient pécuniaires ou non pécuniaires. On peut dire les fonctionnaires ont une éthique du travail, un engagement, une récompense morale qui excède la question de la rémunération. Je doute que ce soit vrai aujourd'hui, mais encore une fois, on peut l'imaginer, mais ça ne change rien en fait que les gens qui justement n'ont pas cette éthique morale ou cette envie de réussir ne méritent pas d'être dans cette organisation-là.
Eh bien, peut-être que vous serez notre premier ministre de la concurrence interne. En tout cas, je vous le souhaite. Robin Rivaton, je vous remercie d'être venu nous parler de votre article, dont je rappelle le titre « Pourquoi il ne faut pas réformer l'État, mais le concurrencer de l'intérieur », votre article qui sera publié dans le premier numéro de Civilisation en septembre.
Hâte de lire.